Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Voici les principales articulations de cette nouvelle édition de notre programme. Dans l'actualité de l'Église, nous vous ferons le point des activités du pape au cours de la semaine qui vient de s'achever, mais aussi nous nous rendrons en République démocratique du Congo, entre autres. Nous parlerons également d'actualités sociopolitiques en Afrique et les pays concernés seront notamment les îles des Seychelles, la Guinée, l'Égypte. À tous et à toutes, bienvenue à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du pape. Camille Moukoso.
Le pape a reçu tour à tour en audience privée samedi M. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. Toujours samedi, les enseignants et étudiants de la faculté pontificale de théologie Marianum à Rome ont été également les hôtes du pape. Dans son adresse, François leur a fait savoir que la mariologie sert à l'Église et au monde aujourd'hui. Aller à l'école de Marie, c'est aller à l'école de la foi et de la vie. Reconnue par Élisabeth comme mère du Seigneur, la Théotokos est aussi la mère de nous tous, a indiqué le pape, faisant remarquer que l'Église devait redécouvrir son cœur maternel qui bat pour l'unité, mais elle a aussi besoin que notre terre devienne la maison de tous ses enfants. Au cours de l'audience générale qu'il a tenue mercredi matin dans la salle Paul VI au Vatican, le Saint-Père a poursuivi son cycle des réflexions sur la prière, concluant sa catéchèse sur les psaumes. La référence à l'absolu et au transcendant est ce qui nous rend pleinement humains, c'est la limite qui nous sauve de nous-mêmes, nous empêchant de nous aventurer dans cette vie de manière prédatrice et vorace. La prière et les saluts de l'être humain avaient exhorté le pape. La commission COVID-19 du Vatican, une commission créée par le pape François sous la direction du dicastère pour la promotion du développement humain intégral, a lancé mercredi un appel à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international FMI pour qu'ils concentrent une partie de leur attention urgente sur les événements qui se déroulent en Afrique. Le pape François, par l'intermédiaire du département pour les services du développement humain intégral, a décidé d'envoyer une contribution économique à toutes les familles de membres de l'équipage du navire qui a coulé dans la mer du Japon près de l'île des Omami au China le 2 septembre dernier après avoir subi une panne des moteurs principales alors que les typhons Maïsak faisaient rage. Le bateau naviguait entre le port des Napi en Nouvelle-Zélande et le port des Jigtang en Chine. Le Saint-Père a participé dans l'après-midi de mardi à la rencontre internationale de prière pour la paix réunissant des dirigeants de plusieurs religions du monde. Cette 34e édition de l'événement interreligieux mis en place par la communauté Saint-Égidio depuis la rencontre d'Assise en 1986 a eu pour thème « Personne ne se sauve tout seul, paix et fraternité ». Dans la basilique de Santa Maria in Arcelli où a eu lieu la prière écuménique avec d'autres confessions chrétiennes, le pape a dans son homélie indiqué que sur les calvaires a eu lieu le grand duel entre Dieu venu pour nous sauver et l'homme qui veut se sauver lui-même, entre la foi en Dieu et les cultes du moi, entre l'homme qui accuse et Dieu qui excuse, et la victoire des dieux est arrivée, sa miséricorde est descendue sur le monde, de la croix a jailli le pardon, la fraternité est née du nouveau, la croix fait de nous des frères. Lundi, le pape avait reçu le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer. Ce dernier a estimé qu'il y avait une convergence des points de vue communs avec le pape dans la volonté de construire des ponts pour qu'une société plus inclusive soit réalisée.
Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin est intervenu vendredi par un message vidéo lors de la conférence internationale promue en ligne par la Fondation Synthesimos Annonce, conférence ayant pour thème les jalons de l'écologie intégrale pour une économie humaine. Reprenant les thèmes centraux de Laudato Si et de Fratelli Tutti, le cardinal Parolin invite à refonder un modèle de développement et de croissance qui place au centre la dignité humaine, la juste valeur du travail et le rôle fondamental de l'éducation à la solidarité. Depuis la dernière conférence internationale portant sur l'encyclique Laudato Si du pape en juin 2019, le monde a été bouleversé par la pandémie de COVID-19 qui a causé des centaines de milliers de victimes, mettant à jour nos fausses sécurités et notre fragilité de créature finie, a indiqué le cardinal secrétaire d'État, ajoutant que la pandémie avait changé nos habitudes de vie et soulevé de nombreuses perplexités sur les systèmes économique de nos sociétés. À la suite du pape, le cardinal Parolin a invité les participants à la rencontre promue par la Fondation Saint-Ésimos Annos à profiter de ce moment d'épreuve pour faire des choix et réinitialiser la route de notre bac vers le Seigneur et vers les autres en collaborant, construisant, en s'engageant ensemble, redécouvrant notre appartenance commune en tant que frères et sœurs. Le cardinal Parolin s'est arrêté dans son message vidéo sur les deux concepts clés du thème de la conférence, écologie intégrale et économie humaine. L'écologie intégrale, a-t-il affirmé, est centrale dans l'encyclique Laudato Si et le pape propose avec elle une nouvelle vision du monde, une réflexion qui va au-delà de la dimension environnementale et se propose d'analyser les différentes questions qui interrogent l'humanité. Par ailleurs, parce qu'elle est centrée sur la personne humaine, a expliqué le cardinal Parolin, l'écologie intégrale implique la promotion d'une culture du soin, à l'opposé de la culture du rejet et qui touche aujourd'hui les hommes comme les choses et qui se manifeste par exemple par l'obsession de réduire les coûts du travail, perdant ainsi le sens de la valeur du droit au travail qui représente pourtant un élément essentiel pour la réalisation tant de la personnalité de toute personne que du devoir de solidarité au sein des communautés sociales qui s'étend aussi aux générations futures. Le bureau diocésain du laïcat de Lissala en République démocratique du Congo a organisé une session pour les catéchistes et animateurs laïcs. Le récit dans cette correspondance.
Au diocèse de Lissala, une session suivie d'une retraite se clôturait dans l'église paroissiale Saint-Kizito à Ebongo le dimanche 18 octobre, dimanche de la mission universelle. Le bureau diocésain du laïcat a d'abord organisé un tridom de prière pour implorer la miséricorde des dieux par l'intercession de la Sainte Vierge. Ensuite, pendant trois soirées de méditation, le curé de la paroisse Saint-Kizito, M. l'abbé Paulin Azima, a entretenu quelques 200 participants autour du thème « Mission et vocation des agents pastoraux laïcs dans l'Église et dans le monde ». Catéchistes et présidents de mouvements d'action catholique et des associations ecclésiales se sont ainsi mutuellement exhortés et ils ont renouvelé leur engagement à annoncer la parole de Dieu dans le monde. Leur mission consiste notamment à aider les prêtres et à prendre en charge les tâches que leur assigne leur communauté conformément aux enseignements du magistère. Au terme de la session, les catéchistes et les présidents du mouvement d'action catholique ont organisé une quête spéciale en nature et en argent en faveur de la caritas paroissiale des Bongo. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au moment du passage de l'heure légale à l'heure d'hiver, nos fréquences pour les ondes courtes vont subir à partir du dimanche 25 octobre à 1h temps universel des changements. Ainsi, notre émission de 17h temps universel sera retransmise sur la fréquence de 9705 kHz, soit sur la bande de 30 mètres, 9705 kHz, soit sur la bande de 30 mètres, mais aussi sur la fréquence de 11935 kHz. Soit sur la bande de 25 mètres, 11 935 kHz, soit sur la bande de 25 mètres. Par contre, notre émission de 20h30 temps universel sera retransmise sur la fréquence de 6010 kHz, soit sur la bande de 49 mètres, 6010 kHz, soit sur la bande de 49 mètres, et aussi sur la fréquence de 7365 kHz, soit sur la bande de 40 mètres, 7365 kHz, soit sur la bande de 40 mètres.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
« L'essentiel des 74 600 électeurs séchellois ont commencé à voter samedi pour élire leur président et leurs députés. Jeudi et vendredi, les agents de la commission électorale avaient sillonné par avion et bateau les îles éloignées pour y installer des bureaux de vote éphémères pour leurs quelques centaines de résidents, essentiellement employés d'hôtels et de la société publique de gestion des espaces protégés. Les bureaux de vote ont ouvert samedi en Égypte pour des élections législatives où les bureaux de vote étaient décorés aux couleurs nationales et placés sous protection de la police et de l'armée. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions sont appelés à renouveler leur parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le président. Dossier élection toujours. La commission électorale de Guinée a indiqué samedi que le président sortant Alpha Condé a remporté la présidentielle avec 59% des voix. Son principal challenger, Sélou Diallo, qui s'est proclamé vainqueur de la présidentielle avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé vendredi qu'il allait entamer dès la semaine prochaine des consultations pour mettre fin à la crise avec ses partenaires de la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila dans une adresse à la nation. Auparavant, M. Tshisekedi a énuméré les divergences au sein de la coalition au pouvoir qui portent notamment sur des questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
L'Éthiopie a déclaré samedi qu'elle ne céderait à aucune agression d'aucune sorte après des propos du président américain Donald Trump, estimant que l'Égypte pourrait détruire le méga-barrage éthiopien sur le Nil. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, est décédé vendredi et un deuil de 72 heures a été décrété. Le président Alassane Ouattara a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Les activités festives liées à la campagne électorale sont suspendues jusqu'à lundi. Dans un autre registre, le président Alassane Ouattara se dit favorable au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo après la présidentielle du 31 octobre et dès que son procès devant la Cour pénale internationale sera terminé. En revanche, il plaide pour la prison à perpétuité pour son ancien allié Guillaume Soro, l'accusant d'avoir fomenté un coup d'État. Le Soudan et Israël sont convenus vendredi de normaliser leurs relations sous l'égide du président américain Donald Trump, un rapprochement visant à mettre fin à des décennies d'hostilité entre Khartoum et l'État hébreu créé en 1948. Le père jésuite Jean-Paul Savy nous introduit maintenant à la méditation avec les lectures du 30e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, les lectures nous rappellent ce qui est à la base de la pratique de la loi. En effet, la loi est ce qui régit la vie des sociétés et des hommes. Mais comment pratiquer la loi afin qu'elle ne soit pas un instrument d'oppression? Dans l'évangile de ce dimanche, une question précise a été posée à Jésus. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Les pharisiens posent cette question pour défier Jésus. Mais à voir de plus près, leur demande ne semble pas si innocente. En effet, la manière d'agir de Jésus face à la loi constitue un réel problème pour ces hommes très méticuleux sur des questions juridiques. Eux-mêmes, dans leur assemblée, doivent être confrontés à cette même question puisque dans la loi juive, il y a 613 commandements. Face à certaines situations de la vie, il faut bien établir une hiérarchie entre les commandements. Mais Jésus ramène le débat à ce qui est essentiel, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans la loi, voilà ce qui est le plus grand. L'amour est la mesure de toutes choses. Mais comment traitons-nous les autres face à la loi? Dans la première lecture, nous voyons que le fondement de la loi vient de l'expérience de l'esclavage en Égypte et de la libération du peuple d'Israël par Dieu. Dieu se révèle comme celui qui écoute le cri de ceux et celles qui sont accablés et opprimés par les hommes et par la vie. Pour défendre leur liberté, leur bonheur et leur dignité, des lois ont été instituées. Les lois sont donc émises pour protéger les plus faibles. La loi n'est donc pas basée sur la punition ou la domination, mais c'est l'amour qui l'a produite. Aujourd'hui, dans nos vies et dans nos sociétés, sur quelle base sont émises nos lois? Les lois sont-elles faites pour protéger et défendre le faible, ou c'est plutôt pour protéger et défendre nos intérêts personnels et égoïstes? Ne l'oublions pas, le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, « Si tu accables la veuve et l'orphelin et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr. » Malheureusement, il faut encore nous menacer pour que l'amour se manifeste de plus en plus dans la pratique de la loi. Souvent, au nom même de la loi qu'on prétend défendre, on oublie le commandement de l'amour. Mais Jésus nous ramène aujourd'hui à l'essentiel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus recadre la question des pharisiens en les invitant à sortir de tout esprit légaliste. Avec Dieu, la loi est d'abord une question d'amour. Aujourd'hui, la question des pharisiens s'adresse aussi à nous. Dans notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, en famille, en société, sur nos lieux de travail, qu'est-ce qui est le plus grand? Saint Jean nous le rappelle, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. » Chers frères et sœurs, ne nous trompons donc pas de cible. Pour mieux vivre notre vie chrétienne, contemplons la vie de Jésus et comment l'amour s'est manifesté en lui. En ce dimanche, prions le Seigneur, afin que notre pratique de la loi et notre relation avec nous-mêmes et avec les autres soient imprégnées de plus d'amour et de compassion.
Le père jésuite Martin Barati continue de nous présenter le document final de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous présentons le deuxième point du quatrième chapitre du document final du Synode sur l'Amazonie intitulé « Une église qui prend soin de la maison commune en Amazonie ». Le document commence par faire sortir un premier point qui analyse la dimension socio-environnementale de l'évangélisation. Il rappelle qu'il nous incombe à tous d'être les gardiens de l'œuvre de Dieu. Les protagonistes du soin, de la protection et de la défense des droits du peuple et des droits de la nature dans cette région sont les communautés amazoniennes elles-mêmes. Dans ce scénario, affirme le document, le rôle de l'Église est celui de l'allié. Plus loin, les documents affirment que les communautés amazoniennes ont clairement exprimé leur demande que l'Église les accompagne, qu'elle marche avec eux et qu'elle ne leur impose pas une manière particulière d'être, une manière spécifique de se développer qui a peu à voir avec leur culture, tradition et spiritualité. C'est donc les communautés amazoniennes ont besoin et le soutien de l'Église, de manière que le rôle de l'Église soit de renforcer cette capacité de soutien et de participation. Selon les participants au synode, l'Église doit accorder une attention prioritaire aux communautés touchées par les dommages socio-environnementaux. Elle doit poursuivre la tradition ecclésiale latino-américaine où des pionniers de l'évangélisation ont montré que la défense de peuples originaires du continent est étroitement liée à la foi en Jésus-Christ et à sa bonne nouvelle. Les participants au synode expriment un souhait en ces termes. Nous voulons une église qui navigue à l'intérieur des terres et se ferait un chemin à travers l'Amazonie en promouvant un style de vie en harmonie avec les territoires et en même temps avec le bien-être de ceux qui y vivent. L'église choisit de défendre la vie, la terre et les cultures premières amazoniennes. Cela impliquerait d'accompagner le peuple amazonien dans l'archivage, la systématisation et des informations sur les territoires et leurs statuts juridiques. Selon les documents finaux du synode, la priorité est au plaidoyer et à l'accompagnement pour parvenir à la délimitation des terres. La doctrine sociale de l'Église, qui s'occupe depuis longtemps de la question écologique, s'enrichit aujourd'hui d'une vision plus globale de la relation entre le peuple amazonien et leur territoire, toujours en dialogue avec les savoirs et leur sagesse ancestrale.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père ivoirien Charles Oligio Siwa. Il est en charge du secrétariat national exécutif de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, le père Oligio Siwa évoque l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Il commence par une analyse de la situation préélectorale. On l'écoute.
L'analyse que nous faisons n'est pas différente de celle que fait l'Église catholique de Côte d'Ivoire et l'ensemble des hommes de bonne volonté. La situation est préoccupante en Côte d'Ivoire. La situation préélectorale ne présage pas d'une élection apaisée, une élection calme et tranquille. Déjà, plusieurs villes en Côte d'Ivoire sont surchauffées. Des événements tristes se sont produits. On décompte déjà plusieurs morts. Les évêques de Côte d'Ivoire, depuis plusieurs assemblées plénières, avaient déjà lancé l'appel à l'apaisement et surtout à l'effectivité de la réconciliation en Côte d'Ivoire.
En partant de ce volet justice et paix, quelles ont été les actions menées sur le terrain pour prévenir ce genre de situation?
Les actions ont été claires. Nous travaillons sur la base de la vision que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire donne à l'apostolat justice et paix. Le plan stratégique de la commission qui a été établi donne un axe fort sur la réconciliation. Nos secrétariats diocésains ont travaillé dans ce sens. Faire rapprocher les Ivoiriens, nous avons, à travers les médias, à travers des tournées, des actions de terrain, nous sommes rapprochés du peuple de Dieu d'abord, la formation, la sensibilisation, et à l'occasion de la journée mondiale de la paix, le pape adresse toujours un message de paix au monde entier. Nous travaillons aussi, à partir de ce message, à la sensibilisation et à la formation de nos chrétiens. De l'ensemble, les activités terrain ont été fortement perturbées par la pandémie du Covid-19 et nous avons repris les activités ces derniers temps avec un séminaire de formation sur le processus électoral et la doctrine sociale de l'Église.
Est-ce que vous aviez eu à rencontrer des acteurs de la société civile, des acteurs de la vie politique, des fidèles catholiques, des fidèles d'autres religions, toujours dans le sens de la promotion de la justice et de la paix?
Nous avons travaillé en relation avec des équipes chrétiennes et nous sommes actuellement partie prenante de l'Alliance des religieux pour la paix qui travaille en rencontrant les politiques avec aussi nos partenaires de la Convention de la société civile. Nous entreprenons pas mal d'actions terrain.
Et face à cette situation, à quelques jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe, quelles sont en ce moment vos actions?
Nos actions sont des actions concertées. Nous ne pouvons plus, vu la gravité de la situation, nos leaders religieux, musulmans, catholiques, protestants, évangéliques, méthodistes, les églises révélées africaines, se sont concertés au plus haut niveau et ont mis en place une alliance des religions pour la paix. Donc nos actions s'inscrivent désormais dans la vision de cette alliance qui travaille à l'apaisement, pour la non-violence, pour maintenir un climat de sérénité. Nous avons fait une activité de grand rassemblement au Palais de la Culture. Toutes les confessions religieuses se sont rassemblées pour lancer un message. Nous avons rencontré auparavant le Premier ministre pour faire notre déclaration qui était autour de 8 points majeurs, dont le point de la libération des prisonniers, de l'incitation que les religieux font aux hommes politiques de se mettre autour d'une table pour faire un dialogue réel et véritable. Nous ne pouvons que éveiller les consciences, nous ne pouvons que sensibiliser, nous n'avons pas le pouvoir politique en main. Nous travaillons à ce que les hommes politiques se rencontrent pour se parler.
Avez-vous le sentiment que vos messages sont-ils passés à chacune de vos rencontres?
Le sentiment que nous avons, c'est que les hommes politiques nous accueillent, ils donnent l'impression qu'ils nous écoutent, qu'ils ont entendu, mais vu la situation qui s'aggrave un peu plus chaque jour, nous sommes inquiets. Est-ce que les actions que nous menons sur le terrain sont bien perçues par les leaders politiques? C'est vraiment une grande préoccupation.
Et également par la population.
Mais la population, il faut que les gens le sachent. En Côte d'Ivoire, la population, dans sa grande majorité, n'a pas de véritable problème. Ce sont les acteurs politiques qui prennent en otage la population ivoirienne, le peuple ivoirien. Et du coup, quand les acteurs politiques sont en conflit, le peuple se met en conflit. Véritablement, en dehors des conflits de nos acteurs politiques qui se déteignent sur l'ensemble de la population, en situation de calme, la population va à ses occupations.
Quel est votre message à l'endroit de tous les Ivoiriens à quelques jours de l'élection présidentielle?
Nous lançons l'appel au calme, dire aux jeunes d'arrêter d'être manipulés pour la violence. L'environnement actuel préélectoral n'augure pas une élection sereine et un environnement post-électoral sereine. Toutes nos prières, c'est que les hommes politiques puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter de la paix, pour discuter de la réconciliation. Au-delà des élections, nous sommes des frères. On appelle les Ivoiriens au pardon, à la fraternité, à la réconciliation et à des élections apaisées.
Le père Charles Olidio Siwa, il est le secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement en Côte d'Ivoire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est ainsi que prend fin cette édition de notre programme, préparée par tous les services Français-Afrique de Radio Vatican et présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt.